Chapitre 18. Visite des messagers célestes à Abraham. Communion avec le Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Ce passage, mis en rapport avec le contenu du chapitre qui nous occupe, montre le genre de communion dont jouit celui dont la vie est caractérisée par la séparation et l'obéissance. Ceci ne touche en aucune manière la question du pardon ou de la justification. Tous les croyants sont revêtus de la même robe de justice. La même vie descend de la tête qui est au ciel et se répand dans tous les membres sur la terre. Mais nous avons à nous souvenir que la justification et les fruits de la justification sont deux choses différentes. Être un enfant est une chose, être un enfant obéissant en est une autre. Or, un père aime un enfant obéissant et fait de lui le dépositaire de ses pensées et de ses plans. N'en serait-il pas de même de notre Père céleste? Les paroles du Seigneur citées ci-dessus l'établissent clairement. Elles démontrent en outre que prétendre aimer Christ et ne pas garder sa parole, c'est de l'hypocrisie. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si donc nous ne gardons pas sa parole, c'est la preuve évidente que nous n'aimons pas véritablement Christ. Notre amour pour lui se montre en ce que nous faisons les choses qu'il nous a commandées et non en ce que nous disions « Seigneur, Seigneur ». À quoi sert de dire « J'y vais, Seigneur » si notre cœur ne songe pas à aller où il nous envoie ? Voir Matthieu 21, versets 28 à 32. Bien qu'Abraham ait eu quelques défaillances, nous voyons cependant en lui quelqu'un qui se distingue par une vie avec Dieu élevée, vraie, intime. Dans le chapitre qui est devant nous, il jouit de trois privilèges particuliers. Premièrement, il offre à Dieu quelque chose qui lui est agréable. Deuxièmement, il est en pleine communion avec Dieu. Troisièmement, il intercède pour les autres devant Dieu. Ce sont des privilèges qui accompagnent une marche sainte, une vie de séparation et d'obéissance. Nous voyons en Jésus le seul homme parfait qui ait jamais existé sur la terre. Il faisait constamment les délices du Père, et Dieu lui en rend témoignage. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Matthieu 3, verset 17. Toutes les voix de Christ faisaient monter sans cesse un encens de bonne odeur devant le trône de Dieu. De la crèche à la croix, il a toujours fait les choses qui étaient agréables à son Père. Lui seul a été parfait. Mais en suivant le cours des Écritures, nous rencontrons çà et là une âme qui, occasionnellement, a réjoui le ciel. Ainsi en est-il d'Abraham, dans le chapitre qui est devant nous. Il offre à l'Éternel ce qui peut le satisfaire. Les dons sont offerts avec amour et immédiatement acceptés. Ensuite, nous voyons Abraham jouissant d'une communion intime avec l'Éternel, recevant d'abord ses communications pour ce qui le concerne personnellement, versets 9 à 15, puis intercédant pour les habitants de Sodome, versets 22 à 33. Quel affermissement pour le cœur d'Abraham d'entendre la promesse de Dieu : Sarah, ta femme, aura un fils. Cependant, cette promesse ne fait que produire le rire chez Sarah, comme elle avait fait pour Abraham au chapitre précédent. Quelle triste chose que ce rire d'incrédulité qui remplit notre bouche lorsque les promesses de Dieu sont trop glorieuses pour être reçues dans nos cœurs étroits, ou quand les moyens extérieurs dont Dieu se sert sont trop petits, à notre jugement, pour l'accomplissement de ses grands desseins. Tel est celui de Sarah dans ce chapitre. Sarah le nia, disant « Je n'ai pas ri », car elle eut peur. Verset 15. L'incrédulité fait de nous des lâches et des menteurs. La révélation des desseins de Dieu. Mais il y a plus. Dieu fait d'Abraham le dépositaire de ses pensées et de ses desseins à l'égard de Sodome. Car, bien que Sodome ne le concerne pas personnellement, Abraham est assez près de Dieu pour que Dieu l'instruise de ses desseins à l'égard de cette ville. Si nous voulons connaître les intentions de Dieu à l'égard du présent siècle mauvais, il faut que nous soyons entièrement séparés de celui-ci et que nous ne prenions aucune part à sa vie et à ses projets. Plus nous nous tiendrons près de Dieu, plus nous serons soumis à sa parole, plus aussi nous connaîtrons ses pensées à l'égard de toutes choses. Nous n'avons pas besoin d'étudier les livres d'actualité ou les journaux pour apprendre ce qui va arriver dans le monde. L'Écriture nous révèle tout ce qu'il nous importe d'en savoir. Elle nous fait connaître le caractère et la destinée de ce monde. Si, au contraire, nous avons recours aux hommes du monde pour nous instruire de ces choses, Satan s'en servira peut-être pour nous tromper et nous empêcher de voir. Si Abraham était allé à Sodome pour se mettre au fait de ce qui s'y passait, s'il s'était adressé à l'un ou à l'autre de ses chefs les plus intelligents pour savoir ce qu'il pensait de l'état de Sodome, il n'aurait certes pas appris le fait le plus essentiel de tout, à savoir que le jugement de Dieu était prêt de tomber sur la ville. Le lieu où Abraham s'était tenu devant l'Éternel, Genèse 19, verset 27, était le seul d'où le regard put embrasser toute la scène. Là, dans la sérénité et le calme de la présence de Dieu, tout était devenu clair pour lui par la révélation même de Dieu. L'intercesseur. Quel usage Abraham fait-il de ce que Dieu lui a révélé? Il intercède pour les autres devant l'Éternel. Il intercède pour ceux qui se trouvent mêlés au peuple corrompu de Sodome et qui sont en danger d'être enveloppés par le même jugement que cette ville coupable. Abraham fait ici un bon usage de sa position devant Dieu. Celui qui peut s'approcher de Dieu dans une pleine assurance de foi, ayant le cœur et la conscience parfaitement en paix, est aussi en état d'intercéder pour les autres. Oh, qu'il ne manque pas de le faire! Celui qui a revêtu l'armure complète de Dieu peut prier pour tous les saints. Éphésiens 6, versets 11 à 18. Et pensons à l'intercession de notre grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Hébreux 4, verset 14. Quel repos infini ne trouve-t-il pas dans tous les conseils de Dieu? Avec quel sentiment profond de son acceptation ne siège-t-il pas dans les cieux, dans la gloire du trône de la majesté? Et que fait-il? Il intercède devant Dieu pour ceux qui travaillent et se fatiguent au milieu de la corruption qui règne dans le monde. Bienheureux sont les objets de son intercession toute puissante. Nous voyons dans ce passage que, aussi juste qu'ait été l'intercession d'Abraham, elle était cependant limitée. L'intercesseur n'était qu'un homme, et l'intercession n'atteignait pas à la hauteur du besoin. Abraham dit « Je parlerai encore une seule fois », verset 32. Puis il s'arrête, comme s'il craignait de trop demander à Dieu. Il y avait pourtant auprès de lui toute abondance de grâce et de patience pour écouter les requêtes de son serviteur s'il avait persévéré à intercéder. Mais il cesse de demander, et Dieu cesse de donner. Il n'en est pas ainsi de notre intercesseur. De lui, on peut dire, il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Hébreux 7, verset 25. Les événements futurs et l'espérance de l'Église. Quand on étudie les Écritures, il est très important de distinguer le gouvernement moral de Dieu à l'égard du monde d'avec l'espérance particulière de l'Église. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, et une grande partie de celles du Nouveau, traitent du gouvernement moral de Dieu sur le monde et offrent ainsi aux chrétiens un sujet d'étude d'un haut intérêt. Il est en effet intéressant de savoir ce que Dieu fera à l'égard de toutes les nations de la terre, qu'il s'agisse de Tyr, de Babylone, de Ninive, de l'Égypte, de l'Assyrie ou du pays d'Israël. Mais quel que soit l'intérêt de ces prophéties, souvenons-nous qu'elles ne contiennent pas l'espérance particulière de l'Église. Si l'existence elle-même de l'Église n'y est pas révélée d'une manière directe, comment son espérance s'y trouverait-elle? Les prophéties de l'Ancien Testament renferment une riche moisson de principes moraux dont nous pouvons tirer profit. Mais gardons-nous de vouloir y trouver la révélation de l'existence et de l'espérance particulière de l'Église. Hélas, une grande partie de ces prophéties a été appliquée à l'Église, et on a ainsi tellement obscurci et embrouillé le sujet tout entier que beaucoup reculent devant une étude qui serait pourtant pleine d'enseignements. Plus grave encore, il néglige même ce qui constitue l'espérance de l'Église. Cette espérance, je le répète, n'a aucun rapport avec les voies de Dieu à l'égard des nations. Elle consiste dans l'enlèvement des croyants à la rencontre du Seigneur Jésus en l'air pour être toujours avec lui. Vous voyez 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et suivants. Plusieurs disent « Je n'ai pas de tête pour la prophétie ». C'est possible, mais avez-vous du cœur pour Christ? Si vous aimez Christ, vous aimerez aussi sa venue, lors même que vous seriez ignorant des divers événements de la prophétie. Une femme qui aime son mari peut ne pas entrer dans le détail des affaires de son mari, mais s'il est absent, elle aura le cœur occupé de son retour. Le chrétien le plus illettré, s'il aime le Seigneur Jésus, peut nourrir un ardent désir de le voir. L'apôtre écrivait aux Thessaloniciens « Vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. » 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Il ressort de l'épître que ces croyants n'avaient, au moment de leur conversion, qu'une connaissance bien incomplète de la prophétie. Et pourtant, ils ont été mis, dès le départ de leur vie chrétienne, en pleine possession de l'espérance particulière de l'Église qui est d'attendre la venue du Fils de Dieu. Un grand nombre de passages du Nouveau Testament viennent nous prouver que l'espérance commune des chrétiens des temps apostoliques, espérance simple, sans empêchement, était la venue du Fils, le retour de l'Époux. Puisse le Saint-Esprit ranimer en nous cette bienheureuse espérance. Tite 2, verset 13.